I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, vous êtes bien sur Dunk Hebdo, épisode 214. Aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle et on va parler jeunesse en NBA. Alors malheureusement, on n'aura pas le point de vue du vétéran IAS, mais la qualité des intervenants est garantie, bien sûr. Tout d'abord par le boss qui, en pleine préparation de son retour fracassant en terre française, c'est Ben. Ça va, Ben ?
Ça va très bien. Ah, t'as vendu la mèche pour mes trois supporters. Ça me chagrine, mais effectivement, le retour se prépare dans la mère patrie.
Voilà, il se prépare, c'est un teasing. Et ben vous l'avez entendu, nous sommes trois aujourd'hui. Et comme j'ai pas trop pris le temps d'écrire une intro à base de références douteuses de pop culture, je vais me contenter de son titre de représentant d'une franchise dont on va probablement parler, puisqu'on y retrouve quand même un des young corps les plus intéressants en ce moment. C'est les Memphis Grizzlies et c'est Tom. Comment ça va, Tom?
Ça va, un peu la tête sous l'eau, mais ça va, vous m'avez bien aidé.
Et ben on va essayer de continuer comme ça. Comme je le disais, donc on va parler jeunesse. Vous écoutez Dunk Hebdo, c'est l'épisode 214, et c'est parti. Alors messieurs, le sujet du jour, il risque de diviser un petit peu, alors si ce n'est chez nous en tout cas, c'est souvent un sujet de débat chez les fans de NBA sur les réseaux sociaux. C'est quelle place accorder à la jeunesse dans une franchise NBA, qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes, comment les faire progresser, etc. Alors moi c'est un sujet qui m'a tout de suite parlé parce qu'il y a un point que je veux soulever avant de vous donner la parole, c'est le fameux biais de jeunesse. C'est un biais qu'on retrouve souvent donc chez les fans, je fais amende honorable, ça m'est arrivé aussi quand on joue à NBA 2K ou même à d'autres sports, hein, dans Football Manager etc, on a toujours cette tendance à accorder une grande importance aux jeunes joueurs, à vouloir rajeunir l'effectif parce que le talent, le plafond fait fantasmer toujours les fans de sport qu'on est. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les fans, qui n'est pas toujours le cas chez les équipes, bien heureusement. La question qui se pose, c'est donc où on place la balance entre la jeunesse et l'encadrement, les vétérans, sur plein de points. Hein. Je pense qu'on va pouvoir parler à la fois du sportif, mais aussi de l'extra-sportif en dehors. Je vais commencer par toi, donc Ben. Pour toi, est-ce que c'est important, même si on voit des évolutions quand même en NBA, est-ce que c'est important d'avoir... des jeunes très très forts dans une équipe, quelle place on donne à nos jeunes pour commencer dans une franchise NBA?
Alors, excellente question Adrien, parce que c'est un sujet sur lequel je pense que je vais partir un peu contre peut-être la majorité, c'est que j'ai l'impression que les jeunes deviennent de plus en plus une monnaie d'échange plus que des talents intrinsèques. Je veux dire par là qu'on a l'impression, on va y revenir si on fait un petit historique récent, des équipes où il y a eu un groupe de jeunes forts et dominants, et ben souvent ce groupe de jeunes-là, avant d'arriver au sommet, c'est soit vu, on a voulu peut-être le faire monter trop vite, je pense qu'on parlera peut-être de Minnesota, ou il est arrivé un moment où les jeunes seuls n'ont pas pu réussir à exploser, et on a fini par tout simplement exploser le groupe, ou faire venir d'autres joueurs et mettre en place des échanges. Donc je pense toujours que la jeunesse, ça reste important, tout simplement parce que même en tant que, si on fait de la spéculation vis-à-vis des valeurs des joueurs, c'est sûr que la jeunesse, et je trouve ça très intéressant ce que tu as dit dans tous les sports, c'est vrai que dans tous les sports, la jeunesse c'est quoi? C'est l'horizon des possibles, c'est, je pense qu'on a tous eu ce débat avec un fan NBA, quand on critique un de ses poulains, il nous dit « Ah oui, mais il a que 21 ans ». Voilà, c'est une excuse que j'adorerais sortir à mon banquier. Je paye pas mes trucs, mais j'ai que 21 ans. Voilà, non, mais après, c'est normal, on le fait tous un peu, parce qu'il y a vraiment cette idée selon laquelle le potentiel est incroyable. Et puis, Tom, je sais qu'on en a déjà discuté sur ça, mais je pense aussi que le fait que dans le gratin NBA, je prends l'exemple peut-être Giannis, Kawhi, Harden et Curry aussi, c'est des joueurs qui ont explosé un peu tard. Donc, on se dit toujours... c'est possible qu'un mec qui ait fait une première saison, une deuxième saison un peu calme, peut exploser et devenir une superstar. Du coup, tu as déjà ce potentiel que de base, tu peux donner, rendre illimité. Et tu as en plus ce biais de se dire « Ah ouais, mais il y a toujours la mini-chance pour qu'ils deviennent extrêmement dominants. » Donc, je pense que c'est important de construire autour d'eux, mais on aura le temps, d'y revenir. Je pense que la NBA actuelle, c'est-à-dire qui est réfléchi en termes de cycle de 2 ans, t'empêche de tout construire sur la draft. Je suis persuadé de ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que tu vois, tu parlais du biais, un biais qui est un peu forcé, parce que quand tu te retrouves dans des situations, et Tom, je vais te lancer là-dessus, les situations des équipes qui sont en bas de classement et donc assez hautes dans la draft, qui récupèrent justement des jeunes à haut potentiel, comme tu disais, Ben, est-ce que tu n'es pas un peu obligé d'y croire d'un peu survendre, en tout cas au début, tes jeunes et de peut-être les surestimer parfois, même s'il faut, il faut raison garder, évidemment, quoi.
Après, moi, je pense que tout naît en fait de l'espoir de gagner le titre. Tu sais que, par exemple, dans certaines franchises, si on prend la vision qui commence à s'installer de plus en plus en NBA, la vision un peu binaire, où c'est soit tu gagnes le titre, soit tu fais rien, entre guillemets, ben, quand tu gagnes pas le titre, le seul moyen de pouvoir t'en rapprocher, de vendre un peu d'espoir à tes fans, c'est d'avoir des jeunes joueurs, entre guillemets, à potentiel. Et en fait, le joueur à potentiel, c'est ce qui peut te permettre de rêver, de changer la situation dans laquelle tu es, pour espérer quelque chose de meilleur. Alors, très souvent, ça ne marche pas et du coup, tu te retrouves dans une situation qui est un peu pire. Donc, plutôt qu'être simplement bon, tu deviens moyen. Mais le fait de pouvoir t'attacher à la progression, entre guillemets, d'un joueur, tu as quand même l'espoir de devenir bien meilleur que tu n'étais avant que ce joueur éclose. C'est un peu la politique comme dans 2K ou dans Football Manager, où tu as des gens qui recrutent plein de jeunes joueurs sur le côté potentiel, en fait, pour pouvoir avoir de la productivité peu chère, entre guillemets, et ne pas... Quand tu sais, par exemple, tu as un joueur, tu sais exactement ce qu'il est et il n'a pas forcément de marge de progression, même s'il est bon, tu seras peut-être tenté de développer un joueur qui est pour l'instant plus mauvais, mais qui a plus de chances d'excéder le niveau de jeu du joueur que tu as déjà, même s'il y a de fortes chances qu'il reste toujours aussi mauvais.
Et du coup, ça pose toujours cette question, on en parlait un petit peu en off juste avant avec Ben, cette question de la valeur sur le marché de tes jeunes joueurs, parce qu'il y a, comme tu dis, cet espoir de progression dans ton effectif si tu veux avec un jeune qui, au début, est plutôt bien coté la plupart du temps, comme disait Ben, il a que 21 ans, tout le monde est à peu près d'accord pour dire, bon, il va progresser, c'est super. Mais il y a toujours un moment où tu commences à te poser la question de quel jeune tu gardes quand t'en as plusieurs, lequel va être assez intéressant, et est-ce qu'il a de la valeur pour l'échanger contre un free agent qui t'intéresse pour X ou Y raison. Et cette valeur, elle fluctue très très vite en NBA. C'est-à-dire, sur les premières années, en général, on accepte, si on veut, on excuse les erreurs de jeunesse, justement, parce que le joueur est en formation, on va dire. Et au bout, quand on arrive au contrat rookie, à peu près à ce moment-là, se posent. Et donc, il y a des joueurs où la valeur baisse drastiquement. Et donc, il faut faire attention à savoir, est-ce qu'on va vouloir le payer, parce que aussi les premiers contrats NBA sont souvent assez gourmands. Donc il faut savoir ça. Est-ce que tu vas le payer, est-ce que tu vas le trade, est-ce que tu vas pas être perdant parce que sa valeur va baisser puisque justement il faut le payer. Il y a tous ces facteurs là qui rentrent en compte sur l'évaluation du potentiel de ton jeune joueur.
Ouais, totalement, le marché dicte beaucoup, c'est clair que le marché dicte beaucoup. Après, pour revenir sur l'idée du jeune joueur, je trouve aussi que on parle beaucoup de construire autour du jeune corps, etc. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il y a quand même, parler d'arrogance ça serait un peu fort, mais je trouve qu'il y a aussi une fierté du côté des franchises NBA à construire via la draft, parce que ça sous-entend que tu as réussi à voir des choses que les autres n'ont pas vues. C'est-à-dire que tu as réussi à détecter un joueur que les autres n'ont pas réussi à détecter. Et c'est pour ça, moi, j'ai toujours l'impression que ce qui est un petit peu le moment de fierté pour un fan NBA, celui où il est proche de l'orgasme, c'est quand il parle d'une petite perle du second tour, tu vois. C'est-à-dire un truc qu'il a réussi à trouver et que personne, en fait, n'avait vu. Et je trouve qu'il y a aussi cet aspect-là, en fait. Je trouve que les fans ont tendance à survendre la construction via les jeunes joueurs, parce qu'il y a le potentiel d'un côté, oui, mais il y a aussi cet aspect, on a réussi à faire des choses que vous n'avez pas vues. Type Warriors, on a réussi à sélectionner Clay, on a réussi à sélectionner Curry, et comble du luxe, Draymond, alors que vous l'avez tous laissé passer.
Bah, c'est la fierté, c'est un peu l'ego, je te repasse la parole juste après Tom, mais c'est un peu l'ego des front office, j'y pense, parce que justement ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les Bulls, et on peut faire le parallèle avec ce qu'on a vu dans The Last Dance et comment est dépeint Jerry Culos, et la, la situation Garpax qu'on a eu cette année, qui, pour se vendre la plupart du temps, eux ont mis en avant leur quad draft, notamment à Jimmy Butler, qui est en fin de premier tour, et qu'ils ont bien drafté. C'est aussi leur vitrine, la façon eux aussi de vendre leur travail, et ce qui est assez important dans le rapport aux fans et aux propriétaires aussi.
Ouais, carrément. Après, il y a beaucoup, comme disait Ben, tu vois, le côté roman, c'est-à-dire que un titre pour les fans aura beaucoup plus de valeur si, par exemple, les joueurs qui ramènent ce titre-là sont des joueurs qui ont été draftés par la franchise plutôt que des joueurs qui sont arrivés en cours de projet. Et en fait, c'est tout le côté, en fait, voir grandir le joueur, c'est-à-dire y croire pendant que la plupart des autres équipes n'y croyaient pas, où on disait, ouais, ça va être un bust, il va pas réussir et tout ça. Et en fait, quand le joueur arrive à éclore, que les gens le veulent, et après, tu arrives à bâtir, entre guillemets, ta franchise. Tu arrives à bâtir ta franchise et à gagner des choses avec un joueur que toi tu as développé, qui est avec un produit interne. En fait, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, c'est comme si tu plantes des carottes et en fait tes carottes grandissent et tu obtiens un prix avec tes carottes que tu as plantées plutôt que d'obtenir un prix pour des trucs que tu as importés ou des trucs comme ça.
À noter qu'en plus, tu l'as vu grandir, quoi.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Et il y a cette vision-là, alors que c'est une anomalie. Ça se passe pas normalement comme ça. Je veux dire, les jeunes groupes qui éclosent ensemble et qui vont jusqu'au titre ensemble, on les compte sur les doigts d'une main sur les 25 dernières années. C'est une anomalie, ça marche pas comme ça. Donc ouais, il y a un peu le côté romantique en fait. Voilà, de l'épopée des jeunes joueurs, et ce qui fait que même nous, on a tendance à, je trouve moi, surévaluer le potentiel de bien nombreuses de jeunes équipes qui en fait n'en ont pas autant, mais je pense qu'on veut intérieurement, on veut les voir gagner, parce que ça aussi, ça renvoie à la philosophie de la NBA. Ça veut dire, bah, en gros, le système égalitaire, il est égalitaire pour tout le monde, c'est-à-dire que tous ces joueurs-là, ils étaient disponibles pour tout le monde, c'est juste de votre faute, la mauvaise gestion de votre front office si vous n'avez pas pu les sélectionner.
Ouais. Vous avez été obligé d'adopter entre guillemets une technique de mercenaire, quoi. De devoir voler les talents à d'autres équipes plutôt que de développer les vôtres, parce que vous n'êtes peut-être pas aussi bon là-dessus. Et puis juste pour rebondir sur ton propos, Ben, quand tu regardes sur les 25-30 dernières années, enfin plutôt les 25 dernières années, les joueurs top 5, des joueurs draftés top 5 par exemple depuis l'arrivée de LeBron James dans la ligue, les joueurs draftés top 5 qui ont obtenu le titre dans une franchise qui les a draftés, il n'y en a pas tant que ça. Tu as LeBron James, Kyrie Irving, Darko Milicic, bon, on va le citer quand même, Darko Milicic, Dwayne Wade, Kyrie Irving, Tristan Thompson, c'est tout. Et dont 3 étaient dans la même équipe. Donc ça arrive
et
pas
les Warriors du coup.
Non, parce que les Warriors, tu n'as personne qui est drafté top 5.
Ah oui, drafté top 5, oui. Bah oui, en effet. Oui, non, mais il y a ce sentiment de que je trouvais intéressant que tu développais, genre d'appartenance, genre il est à nous le pic. Il y a ce côté ouais, de la découverte qui est vachement flagrant, où on est très fier. C'est comme s'il était c'est un produit de chez nous, et encore pire si le joueur a grandi dans la fac. Donc il y a aussi ce biais qu'on voit dans les choix de draft. On peut parler de DeAndre Ayton récemment. Alors même si le choix se justifie aussi d'un point de vue basket, hein, mais quand un joueur a en plus fait ses classes dans l'état de l'équipe, il y a d'autant plus ce fantasme du gars qui est chez nous, drafté chez nous et qui va gagner chez nous. Et ouais, pour le narratif, carrément, c'est toujours un truc que tu as envie de mettre en avant, quoi.
Puis ce que tu as dit, Tom, c'est très intéressant sur le côté mercenaire. Je pense que tu fais un sondage auprès de 100 fans NBA. Tous te disent que la façon, entre guillemets, naturelle pour gagner en NBA, c'est celle-ci. C'est sélectionner des jeunes joueurs à la draft. Les jeunes joueurs se développent. Peut-être tu ajoutes une ou deux petites touches avec la free agency ou des trades. Et c'est ce groupe-là qui va gagner. Je pense que c'est la vision pure du titre qui gagne. Sauf qu'en fait, moi, si je me rattache au fait, c'est pas une vision vraiment qui gagne. Même les Warriors, ils ont ajouté André Iguodala, qui est quand même MVP des finales de leur premier titre. Donc, c'est un peu une vision romanesque, romancée, mais qui, dans les faits, ne renvoie à pas grand-chose, selon moi.
Et puis surtout, même au-delà du top 5 que tu mentionnais, Tom, c'est assez rare qu'il y ait un pic de draft où dans les young core qu'on met souvent en avant en se disant bah là ils ont 3-4 jeunes joueurs très intéressants, il y a sûrement une base. On le sait bien, on en a parlé dans des podcasts précédents, pour gagner un titre il te faut le gars aussi, il te faut le meilleur joueur sur le terrain, c'est très important. Et c'est beaucoup plus rare. C'est vrai que tu peux à la draft bâtir un effectif avec un talent assez haut, mais c'est assez compliqué de se retrouver avec le gars, et encore plus ensuite de le garder, de le faire évoluer correctement.
Mais ça aussi, c'est une problématique aussi, tu vois, par rapport aux joueurs et par rapport justement à la relation des fans par rapport aux joueurs. C'est, comme tu l'avais bien mentionné, c'est le fantasme en fait du niveau plafond et en minorant, entre guillemets, le niveau plancher d'un joueur. C'est-à-dire que En NBA, tu vois, on s'attache, quand les joueurs sont très jeunes, on s'attache beaucoup au flash. C'est-à-dire que le joueur, il va faire peut-être cinq actions, il va faire cinq actions négatives d'affilée, et après, il va faire un truc, et tu vas retenir que le truc qu'il a fait, parce que tu vas peut-être te conforter dans l'idée que, ok, ça, c'est quelque chose que très peu de joueurs peuvent faire, il a réussi à le faire. Mais par contre, corriger, et tu te dis que, en fait, corriger des erreurs, par exemple, des erreurs de placement, des erreurs d'inattention, des choses comme ça va se faire rapidement. Et le côté talent brut et geste rare, en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile. Et ça joue aussi sur la perception du talent que tu as du joueur. Et en fait, tu prends pas en compte et tu prends pas en considération le résultat le plus probable. C'est-à-dire que tu as le niveau plancher, tu as le niveau plafond. Et est-ce que le joueur, quelles sont les étapes que le joueur doit arriver à valider pour après arriver à atteindre ce niveau plafond? Et ensuite, est-ce que c'est possible? Tu vois, est-ce que c'est quoi le pourcentage de chances qu'il arrive à y arriver, quoi? Parce que c'est bien beau d'avoir, par exemple, le profil pour être un Hall of Famer, mais c'est quoi la chance réelle pour que tu sois Hall of Famer, quoi? Donc, tout ça, en fait, ce
Ah
sont
oui,
des
bah
choses. Ouais.
l'illustration de ça, pour moi, là, le profil qui me vient tout de suite en tête, alors si je suis biaisé en tant que fan des Bulls, mais c'est Kobe White, par exemple. Tu vois, moi, je trouve que ça illustre parfaitement ce que tu dis. Et je sais que j'ai ce biais, c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant ce que tu amènes. Du fait, Kobe White, après, voilà, c'est un rookie, il est meneur, on demande aussi beaucoup de choses aux meneurs, mais il y a eu des flashs très très intéressants, et pendant un temps, dans le marasme de la saison dernière des Bulls, il y a beaucoup de gens, beaucoup de fans que je suis, et même des insiders, qui se raccrochaient à ces flashs en disant, mais regardez ce qu'il est capable de faire, ça peut être un excellent scoreur NBA, en mettant de côté le fait que bah, ce qu'on attend de base, donc le niveau plancher d'un meneur titulaire NBA, il y a encore beaucoup de travail pour ce gars-là. Je trouve que c'est l'illustration parfaite de ce que tu viens d'exprimer.
Ben c'est vrai que Kobe White, en fait, lui, c'est, enfin, globalement, tu vois, comme c'est un joueur qui est assez dynamique, plutôt explosif et qui a montré de bonnes capacités de pull-up à 3 points, enfin, tu vois, c'est typiquement Alan, c'est un joueur que il va aimer ça, tu vois. Il va aimer ça parce que quand tu regardes les joueurs aujourd'hui qui font la différence entre guillemets en NBA, qui ne sont pas à l'aile, ce sont des joueurs qui ont la maîtrise du pull-up à 3 points. Et ça, c'est quelque chose que quand tu as un jeune joueur qui arrive à flasher du pull-up à 3 points en allant sur sa droite, en allant sur sa gauche, et qui arrive comment dire, à pouvoir se créer à pouvoir créer de la séparation sans forcément utiliser ses capacités physiques et pour en créer et avoir un bon résultat après sur le shoot, bah tout de suite tu vois, ça sonne gravité. Mais est-ce que ça, en fait, au final, quand tu prends juste ça et tu isoles ça dans ton esprit, bah en fait, ça, tu vas lui demander ça sur certaines séquences, mais tout ce qu'il doit faire à côté pour après, pour que cette valeur-là soit exponentielle et rendre l'équipe meilleure, s'il le fait pas, tu vois, si tu maîtrises le pull-up à 3 points, par exemple, et tu es perdu sur toutes les rotations défensives, bah au final, bah, le coach, il va pas te faire jouer longtemps.
Ah bah c'est
Moi, j'ai
sûr que
juste.
quand tu vas faire les colonnes plus moins, ça va être compliqué.
Moi, j'ai juste pensé à Jeff Green quand tu as décrit le joueur-là. Mais c'est à peu près tout. Non, mais c'est très vrai. Les flashs, surtout que, en réalité, et je renvoie à Tom sur l'idée plancher, plafond, voilà, niveau potentiel maximum, potentiel, voilà, pire cas possible. Surtout qu'en fait, ça, mais c'est tellement théorique.
Ouais.
Qui pense vraiment qu'au moment où James Harden quitte les Rockets, ça peut devenir potentiellement
Quitte les
un des meilleurs
Rockets.
scores de
Quitte
l'histoire.
OKC, tu veux dire?
Quitte OKC, pardon, oui. Quitte OKC,
Teasing.
ça peut devenir un des meilleurs scoreurs de la NBA, si ce n'est de l'histoire. C'est
Ouais.
impossible à anticiper, ça.
Ouais, carrément.
Pareil que les trajectoires d'un Kawhi, d'un Giannis à d'autres niveaux, de Conley, de Lauri, c'est des trajectoires que tu peux pas anticiper. Donc en fait, moi, ça me fait toujours marrer le niveau plafond, plancher. Enfin, les mecs qui font des flashs, faut d'ailleurs, je trouve, s'en méfier parce que c'est peut-être intéressant sur un et deux, mais il y arrive un moment où tu attends quand même que le joueur arrive à rassembler des choses. C'est pour ça que j'ai cité Jeff Green, en fait. Parce que à moins que tu sois un appareil photo Kodak et que tu finisses à faire que des flashs, en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème de Jeff Green à la fin.
Jeff Green,
Mais.
Bette McLemore, la même histoire, tu vois, les gars qui te
Ouais, c'est
montrent
ça.
des
Willie
trucs
Cauley-Stein.
aussi, ouais,
Enfin,
c'est vrai.
c'est les mêmes. Enfin, tu vois, en fait, c'est l'archétype. Ils ont les qualités athlétiques, ils font quelques bons matchs, mais il y arrive un moment où les flashs ne suffisent plus parce que, honnêtement, alors là, c'est un exercice trop compliqué à faire, les gars, mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu un joueur avoir des flashs pendant 3-4 ans et ensuite enfin se réveiller sur quoi, un deuxième contrat et réussir à tout mettre ensemble? J'en vois pas vraiment, en fait, moi.
Ah ouais, là,
Ouais,
c'est.
c'est
En
vrai.
train de réfléchir, j'ai aucun profil qui m'est venu, là.
C'est vrai.
Ouais, en général, c'est plus des surprises, ceux qui explosent dans un deuxième temps, qu'autre chose.
Exactement, ouais.
C'est vrai.
À Curry, ouais, peut-être d'une certaine façon quand même, mais.
Quoique Curry, il avait déjà montré des. C'est-à-dire que Curry, il avait déjà montré des choses. C'est juste la régularité, le niveau de blessure, en fait. Et à partir du moment où il est devenu. Il a pu enchaîner les matchs et tout ça, ben, en fait, si tu veux, il a eu une progression exponentielle. Mais il avait déjà montré. Si tu veux, il faisait ça déjà, tu vois. C'est pas genre, il a développé un nouveau skill set. Tu vois, les cas qui pourraient être un peu comme ça, c'est, tu vois, les gars comme Pascal Siakam. Qui, tu vois, c'est encore très rare où ils montraient pas tout ça au début. Ou encore, par exemple, Bam Adebayo ou même Devin Booker. C'est des gars comme ça où Devin Booker, quand tu le regardais à la fac, quand tu le regardais, voilà, c'était simplement un catch and shooter. Voilà. Et en fait, quand il arrive en NBA, tu as découvert littéralement un autre joueur. Il y a un cas aussi, par exemple, pour Karl-Anthony Towns, qui était censé être une machine défensive en NCAA et qui arrive en NBA. Et c'est probablement l'un des meilleurs.
Une machine offensive.
Voilà, c'est l'un des meilleurs intérieurs offensifs de l'histoire. Et un autre cas aussi, là, je vais le prendre personnellement, puisqu'on en a beaucoup discuté, je me souviens, avec Ben à cette époque-là. Ben Simmons qui branlait rien en défense. Et Ben Simmons, il est quasiment DPO cette année, quoi. Il va être dans les defensive team, Ben Simmons. C'est juste que, alors qu'en NCAA, c'était l'un des traits majeurs, Ben Simmons, il ne fait rien en défense, il ne défend pas.
Ouais, mais ça pose la question du contexte, en fait, tout simplement. C'est peut-être la question qu'on va se poser dans un deuxième temps, de comment faire en sorte de mettre ton jeune, donc, pour lequel tu as de bonnes attentes, dans les meilleures dispositions pour qu'il atteigne, justement, si possible, ce niveau plafond. Et en fonction de ce que toi, tu as évalué, dans ce que tu as vu à la fac ou au lycée précédemment. Parce que, comme tu le dis, il y a certains joueurs où on identifie très facilement, entre guillemets, le rôle qu'ils auront en NBA. Il y en a, c'est beaucoup moins le cas. Il y en a qui vont avoir besoin, du coup, de voir le terrain dans un nouveau rôle, etc. C'est la question, qu'est-ce que peut faire une équipe pour que son jeune joueur s'épanouisse et atteigne le plus probablement possible, en tout cas, essayer un maximum de le pousser vers ce niveau plafond. C'est pas toujours évident et c'est une question qui revient très souvent de la déception qu'on peut avoir sur certains joueurs qui ont parfois, alors c'est quelque chose d'assez facile, c'est un peu un lieu commun qu'on entend souvent à NBA de « il est tombé au bon endroit au bon moment la fameuse phrase qui ferait plaisir à Madiane de « s'il avait pas été aux Spurs, Parker aurait-il eu la même carrière ?» Mais c'est exactement ça, c'est est-ce que, enfin, tomber au bon endroit au bon moment, ça veut dire beaucoup de choses et à la fois très peu de choses, c'est justement qu'est-ce que veut dire tomber au bon endroit au bon moment, quoi.
Carrément, parce que de toute façon en NBA, enfin, faut pas se leurrer, hein. Même le plus mauvais joueur NBA est un excellent joueur de basket, hein. La plupart des joueurs,
ça, on le rappellera jamais assez.
On le rappellera jamais assez. La plupart des joueurs NBA, ben, ils ont été au bout d'un moment, enfin, soit au lycée, voire même à l'université, c'était le meilleur joueur de leur équipe. C'est juste que voilà, c'est là tu
vois, de leur état,
de leur état même, tu vois, et tu arrives au niveau élite de l'élite. Et je pense que, enfin, j'avais entendu ça notamment dans un podcast d'envergure où il y avait un coach qui expliquait que il y a beaucoup une notion d'opportunité pour chaque joueur, puisque en fait certaines équipes, en fonction de la situation dans laquelle elles sont, elles vont plus ou moins accorder certaines responsabilités à certains types de joueurs, et elles vont plus ou moins tolérer, entre guillemets, les erreurs que tu pourras faire en tant que jeune. Et ça, en fait, c'est hyper important, puisque quand tu es dans une logique où, disons par exemple dans la logique des Bucks cette année, tu vas avoir des jeunes joueurs, mais si ton jeune joueur, il est pas bon, vu que tu vas essayer de jouer le titre le plus vite, tu es sur tu veux jouer le titre sous 2 ans, tu vas pas forcément prendre du temps pour développer un joueur. Tu vas essayer de développer des automatismes pour avoir la meilleure équipe possible à l'instant T sur les 2 ans. Alors que un joueur, on sait très bien qu'un jeune joueur, quand il arrive en NBA, ben, il doit se réadapter à un nouveau rôle, puisque le rôle que tu as quand tu es la star de ton équipe au lycée, ben, au final, on va pas te demander de faire la même chose quand tu arrives en NBA où le niveau et la marche est beaucoup plus haute. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Et t'as aussi le côté mise en situation et concurrence, puisque on sait très bien que lorsqu'un jeune joueur arrive sur le poste d'un vétéran respecté, ben, il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses. Enfin, tu t'arrives pas forcément à terrain conquis. Donc tout ça, c'est des...
Même LeBron James, c'était pas le cas, donc.
Ouais, c'est ça, carrément.
Moi, j'ai adoré la comparaison. J'ai lu un article en préparation de ce podcast de CJ McCollum qui parlait en fait de l'arrivée d'un jeune joueur dans le Players Tribune pendant sa deuxième saison, sa saison sophomore NBA, qui comparait l'arrivée d'un jeune joueur à un interne dans une grande entreprise. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup de points, je trouve, qui se rejoignent. Et en fait, les conseils qu'on peut donner, par exemple, ce que tu as dit, Tom, en fait, de pas faire d'erreur. Par exemple, imaginons, tu arrives. Je pense que si tu as un jeune interne dans une entreprise du 440,
un stagiaire, on dit, Ben, attention aux anglicismes.
Ah oui, un stagiaire. On n'a pas le droit de dire un interne en français ?
Non.
Bah, un interne, c'est en médecine.
Un interne, c'est aussi en médecine.
D'accord, je m'excuse. Jetez-moi des pierres. Un stagiaire dans une entreprise du 440, il n'aura pas les mêmes responsabilités qu'à la PME du coin, du coup. Donc, ouais. Tu vois, ça rejoint un peu ce que tu as dit, Tom. En mode, je peux te dire que si tu fais,
tu oublies une virgule dans un document officiel, c'est pas la même.
Ouais, tu vois, c'est différent. Et par exemple, j'avais lu aussi un article d'un ancien directeur du développement joueur des Clippers, et pour ramener à cette idée de la ressemblance entre ça et un stagiaire, il disait que c'était extrêmement important pour un rookie, un jeune joueur, d'avoir une relation privilégiée avec un assistant. Parce qu'en fait, nous les premiers, on parle souvent de « Ah, c'est un coach qui va développer les jeunes, etc. » Mais le coach n'a pas le temps pour s'intéresser à chacun des cas, en fait. Et ce Dave Sevens, j'ai retrouvé son nom, disait qu'en fait, c'était extrêmement important pour un jeune de développer une relation très forte avec un assistant, parce que c'est l'assistant qui va rester des heures avec lui après l'entraînement pour peaufiner, etc. Et c'est des relations qui vont compter après. Là où avec un coach principal, alors déjà, t'as le facteur qui existe aussi pour les assistants, hein, mais du renouvellement, etc. Donc, il y a d'autres problématiques. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il y a un aspect qu'on parle pas souvent, mais enfin, on en parle assez, mais c'est pour ça que le changement incessant de coach, et on fait un salut au coach aux fans des Knicks, c'est terrible. C'est terrible pour le développement des jeunes joueurs, en fait, parce que c'est tout le temps recréer des relations. C'est comme si, enfin, t'étais dans une entreprise où tous les cadres étaient en CDD, tu vois. C'est une catastrophe.
Ouais, c'est ça.
Carrément. Mais justement, les équipes, elles évoluent un petit peu dans ce sens-là. Là, je vais revenir une nouvelle fois aux Bulls avec le changement de front office. On s'est rendu compte qu'il y avait un seul coach responsable du développement. Et le nouveau front office est arrivé en disant non, mais il nous faut beaucoup plus de monde. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit à l'échelle NCAA, justement, dans un podcast envergure. Il y avait un coach qui le mentionnait aussi. Même dans les équipes NBA, ils commencent à se dire il nous faut plus de gars pour s'occuper, enfin, pour être proche des jeunes joueurs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins et ils ne voient pas forcément le terrain selon le contexte, etc. Donc il nous faut, il nous faut plus de monde pour essayer de mettre au maximum à l'aise, nous ouvrir un maximum d'options, en fait. Parce que plus tu as de jeunes joueurs qui vont potentiellement atteindre leur plafond, plus tu t'offres d'options sur le futur, au moins à court moyen terme.
Et puis tous les joueurs sont des hommes différents. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a tendance à peut-être oublier, c'est que le joueur de basket, c'est un homme. Et en fait, quand tu arrives à NBA, moi j'aime beaucoup parler d'un certain triangle, en fait, pour les joueurs NBA. Quand tu arrives à NBA, c'est le triangle homme, joueur, entreprise. C'est-à-dire que tu es un homme qui arrive dans une nouvelle ligue, donc tu as des changements dans ta vie personnelle et professionnelle, et tu évolues en tant qu'homme puisque tu gagnes en maturité, et puis tu es soumis à
mais surtout qu'ils arrivent très jeunes.
Et tu arrives très jeune. Tu as le côté joueur où tu dois faire ta place dans la ligue et tu dois faire ta place dans l'effectif. Donc tu dois, pour cela, tu dois te développer en tant que joueur, et il faut que tu sois généralement bien, entre guillemets, dans ta tête en tant qu'homme pour arriver à te développer en tant que joueur, à moins que ça te serve d'exutoire, entre guillemets. Et tu as aussi le côté entreprise, ou entreprise dans le sens où tu es une action, comme Ben le disait au tout début, tu es une action pour l'équipe qui t'a récupéré, mais entreprise dans le sens où, comme tu génères de l'argent, ben toi aussi tu deviens une petite entreprise où il y a toute une petite économie autour de toi. Et tout ça, en fait, c'est tout ça, en fait, que le joueur NBA doit aujourd'hui gérer. Et on se rend compte que t'as de moins en moins de joueurs qui arrivent à faire ça seul. Et du coup, ils doivent trouver un entourage assez stable, entre guillemets, pour leur permettre de sortir, entre guillemets, de pouvoir gérer bien, de bien gérer ce triangle-là, et créer leur routine, gérer les sollicitations extérieures, éviter l'entourage toxique, les addictions, l'isolement, tu vois. Puis il y a pas mal de joueurs qui se confient sur les problématiques mentales qu'ils ont eues quand ils sont arrivés dans la ligue. Tout ça, en fait, tu te rends compte qu'au final, être un jeune joueur en NBA, c'est pas si facile que ça, hein.
Bien sûr, et c'est d'ailleurs un truc, je te redonne la parole, Ben, rapidement, mais j'avais vu là, pendant le confinement, il y a beaucoup de joueurs qui se sont exprimés sur différentes plateformes, et j'avais vu, c'était Bobby Portis qui avait répondu à plein de questions sur Twitter, et qui notamment saluait l'importance pour lui des vétérans, parce qu'on a parlé du staff,
carrément.
Mais il y a aussi des autres joueurs, et des vétérans, lui parlait de Taj Gibson et Joakim Noah, j'en profite pour le placer, qui lui avait appris, d'une part, effectivement, à être prêt, tout l'aspect basket, comme tu le disais, mais aussi à gérer les aspects hors-terrain dont tu parlais, que ce soit ton entreprise, l'image, la communication, les rapports aussi, les rapports humains, comme tu le disais, entre les joueurs, avec le staff, avec les journalistes. C'est une vraie pression quand tu arrives à 18-20 balais en NBA. C'est pas évident pour un jeune homme de s'y retrouver au sein de tout ça, quoi.
Carrément.
Moi, je regardais, et par rapport à ça, ouais, j'avais lu, perso, un article, encore une fois, d'un conseiller, etc. Et moi, j'étais surpris, en fait, bien souvent, on résume, comme vous le dites, l'entourage d'un joueur à, en gros, son agent. Mais en fait, lui, il t'expliquait qu'il doit avoir membre d'un cabinet. Enfin, on parle limite, on parle effectivement d'une entreprise. Enfin, c'est pas seulement l'agent. Selon lui, il doit avoir un avocat, un comptable, quelqu'un pour l'assurance, quelqu'un pour l'assurance vie, enfin tu vois, plein de facettes différentes de sa vie que tu dois réfléchir, comme c'est dit, à quoi, à 17, 18 ans, et ça c'est extrêmement dur. Après, pour revenir aux vétérans, je veux pas trop idéaliser aussi leur rôle, parce qu'on sait que parfois les vétérans peuvent être... C'est le piège. Enfin, moi, je me souviendrai toujours de l'article de Lee Jenkins sur Dwight Howard. Dwight Howard vient d'une famille extrêmement pieuse, d'Atlanta, et dans l'article, en fait, qui était une sorte de rédemption à l'époque, il expliquait qu'en gros, bah, c'est les vétérans qui l'ont pris par la main, qui l'ont amené dans le strip club. Enfin, donc, en fait, t'es aussi le produit de tes vétérans. Et c'est sûr que là où je pense que Gibson et Noah, ou certaines franchises peuvent avoir un environnement sain, c'est aussi, et là se pose la question de la ville dans laquelle t'atterris, etc. Il y a des vétérans qui peuvent aussi te mettre la tête sous l'eau, faut être honnête aussi là-dessus.
Après, parce qu'il y a cet intérêt-là, hein, je t'en prie, mais il y a cet intérêt-là. Tu parlais de la concurrence du vétéran qui voit arriver un jeune joueur à son poste. Il ne faut pas oublier que, et c'est totalement humain, tous les gens ne sont pas forcément bienveillants, et il doit y avoir aussi des vétérans qui sont très.
Qui savonnent la
qui mettent un point d'honneur à rappeler qu'ils sont les titulaires, les vétérans, et que tu es un jeune joueur. Il y a toute la culture du bizutage aussi, qui est quelque chose de très présent aux États-Unis, dans les facs, etc., et qui est aussi présent en NBA avec les rookies qui portent les bagages, etc. Voilà, c'est un aspect aussi humain important au sein d'une dynamique d'équipe, quoi.
Ouais, carrément. Et puis t'as dans le côté vétéran, je pense qu'il est à double tranchant, comme tu disais, enfin comme vous disiez tout à l'heure, que le côté vétéran, il est à double tranchant, mais je pense qu'il est particulièrement important pour le côté routine. Les joueurs NBA, ils parlent souvent quand tu leur parles comment ça se passe, machin, comment ça va, machin, notamment CJ McCollum dans son podcast, il revient souvent sur sa routine. Il faut qu'il fasse ça avant les matchs, il faut qu'il mange tant, il faut qu'il mange ça, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il voie les masseurs, il faut qu'il aille sur. Enfin, ça, c'est vraiment. Là, c'est vraiment très très important. En fait, c'est là le joueur NBA, limite, je dirais pas que c'est un robot, mais en fait, il garde sa confiance en lui, peut-être dans tout ce qui, les gestes qu'il arrive à répéter quotidiennement. Et dans trouver ta routine quand tu es un jeune joueur NBA, c'est compliqué parce que voilà, les déplacements, les voyages à répétition, les sollicitations,
ton temps de jeu fluctue.
C'est ça, faut garder la confiance. Ton temps de jeu fluctue, par exemple, peut-être que tu peux rester sur le bout du monde. Peut-être que toi tu vois que t'es meilleur qu'un autre joueur qui joue plus de minutes que toi, mais l'autre joueur il a plus d'affinité avec peut-être la star de l'équipe. Enfin, t'as des choses qu'on t'explique pas forcément. Et ça arrive dans toutes les équipes, hein, généralement pas forcément en NBA, hein, mais ça arrive que voilà, tu joues pas pour peut-être des raisons autres que des raisons typiquement basket, et c'est des choses que, enfin voilà, ça, c'est pas forcément, parfois tu peux douter de tes capacités, rester, tu vois, on parle des joueurs NBA, à chaque fois que t'as un mec qui sort du banc qui a une chance, on dit stay ready, toujours rester prêt, tu sais jamais à quel moment on peut appeler ton nom, tout ça, et ça c'est particulièrement difficile.
Et c'est accentué parce que tu disais avant, les joueurs qui sont draftés en NBA, qui sont la crème de la crème, la plupart du temps dans leur jeunesse, leur lycée puis leur fac, ils ont vu le terrain tout le temps, parfois on jouait pour eux, et donc le choc est d'autant plus grand quand tu dois totalement t'adapter à être au bout du banc, à être prêt à jouer des garbage time que tu peux rater, etc. Enfin, c'est encore plus accentué par leur profil précédent qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes.
Puis c'est d'autant plus dur qu'ils n'ont plus que ça à faire. Enfin, je veux dire, quand ils sont à un lycée ou à l'université, tu as quand même, même si alors c'est le sujet de prédilection d'Alan, mais l'université, ça, enfin bref, tu as quand même l'aspect scolaire en dehors. Parfois, ils vivent encore chez les parents. Enfin, tu vois, tu as cet aspect-là. Quand tu es professionnel, c'est ton gagne-pain. C'est ta vie, ça se résume au basket. Et c'est une adaptation psychologique qui est très grande. Je m'en souviens d'une interview de Malik Monk qui expliquait qu'en fait, la vie d'un joueur NBA, pour quand tu es jeune, c'est ennuyant parfois. C'est fondamentalement ennuyant parce que tu passes d'une ville à une autre, avion, entraînement, massage, et tu t'ennuies en fait. Et c'est là, c'était Brandon Ingram cette fois-ci qui parlait de l'importance de se trouver des hobbies, mais pas des hobbies toxiques, tu vois, pas la coke comme Robert Swift. Il faut trouver des vrais hobbies. Et ça, c'est, tu vois, c'est quelque chose, je pense, là où les vétérans peuvent avoir un rôle important. Mais c'est aussi un changement dans, je dirais, l'horloge de ta vie. Ça tourne plus du tout pareil. Rien. Et puis on parle pas de ça assez, mais le nombre de matchs, par exemple, ce qui fait que pour les rookies, enfin, je veux dire, il passe des 35, je vais faire une comparaison, mais il passe des 35 heures au rythme coréen, tu vois, enfin, c'est pas possible, enfin, c'est extrêmement difficile pour eux de s'adapter à ça. Donc, c'est aussi, je trouve, faut aussi parler du fait que c'est un passage à la vie professionnelle où ils continuent, le cœur, l'essence, c'est le basket, mais c'est plus le même basket qu'ils jouent.
Ouais, c'est pas pareil. Et puis toujours pour rester sur les citations de joueurs comme tu as pu le faire, il y a par exemple Mike Conley qui citait ça en fait, qui disait que en fait quand tu arrives à NBA, tu apprends l'humilité. C'est-à-dire que lui, il était dans une situation où quand il est arrivé à Memphis, par exemple, c'est quelqu'un comme Damon Stoudemire, qui est une ancienne gloire de Portland et des Jayblazers.
Des Jayblazers
qui étaient à ce moment-là à Memphis. Et en fait, il se rendait compte que ben lui, quand il est arrivé, pour lui, il se voyait meilleur que lui, puisque Stoudemire était assez vieux. Et il se faisait ratatiner à chaque entraînement, en fait. Comme on a pu le voir, par exemple, des images de Mike Miller avec des prospects de Memphis. Mike Miller qui est pas athlétique, machin, qui a juste des hyper bons fondamentaux basket.
En plus, il est en survêt.
Il est en survêt, normal. Et tu vois que le jeune mec qui est prospect pour l'NBA, ben, il lui met.
Il a des années-lumière du niveau de Mike Miller.
Tu vois, il a des années-lumière du niveau de Mike Miller. Il n'arrive même pas à défendre Mike Miller, qui n'est pas forcément un joueur réputé. C'est un joueur hyper technique, qui n'est pas forcément réputé pour ses qualités athlétiques. Et tu vois que Mike Miller, il va là où il veut, il va dans les spots où il veut, et il met le gars en difficulté défensivement. Alors que le mec est retraité depuis combien d'années ? C'est pas un joueur qui était connu forcément pour son handle quand il était en NBA. Mais il a le vice du jeu, il a l'expérience, il a la technique, et qui te montre que voilà, la NBA, c'est pas, tu domines pas la NBA par hasard.
Mais même sans dominer, parce que Mike Miller, ça a été un joueur quand même relativement important, ça a été un très bon joueur de NBA, mais il y a quelques années, il y avait aussi une vidéo avec Brian Scalabrini, qui est un peu un running gag du joueur de fond de banc. En plus, il a la dégaine de ton vétéran qui joue en départ. Et pareil, il avait été challengé, il avait accepté, où il joue contre des prospects high school et puis dans des facs, bon, un peu de second rang, je crois, mais quand même qui étaient persuadés de pouvoir jouer Brian Scalabrini. Il les éclate, mais comme s'il jouait, comme s'il jouait contre moi, quoi. C'est-à-dire que ça te rappelle que même le mec du bout du banc, il a tout autre niveau que ce que t'as connu jusque-là, quoi.
Carrément. Et on te dit souvent qu'en NBA, le plus dur, c'est pas forcément d'y arriver, mais d'y rester. Et typiquement, tu vois que être un NBA, c'est bien. Après avoir ton deuxième contrat et après devenir All-Star, tout ça sont des steps qui sont hyper importants, mais qui sont très, très, très difficiles, tu vois, à obtenir en NBA. Ça tombe pas.
Alors,
comme ça.
On me fait noter interne, mais step, ça passe. J'aimerais bien savoir, elle est où la limite, les gars.
C'est vrai, passer une étape.
Passer une étape, un cap.
Non mais c'est très vrai, et bien sûr que il y a cette sensation, je pense, dans les joueurs NBA surtout, hein, où une fois que t'es dans la ligue, c'est bon, parce que la NBA, c'est quand même une ligue où les carrières en moyenne durent 6 ans, ce qui est énorme, hein, en fait, si tu compares à d'autres sports, c'est énorme, une carrière moyenne de 6 ans, et donc du coup t'arrives bien souvent au second contrat. Ce qu'il faut voir après, c'est que pour beaucoup de joueurs, du coup, c'est que dans leur tête, ils ont déjà le second contrat juteux et parfois peut-être déjà acquis trop vite. Et c'est un truc, bien sûr, qu'il faut aller étape par étape. C'est pour ça que moi, j'ai d'ailleurs tendance à me dire que une des meilleures places pour être drafté, ça reste toujours entre fin de loterie. Parce qu'on a des mecs qui ont des assurances un peu sur le temps de jeu, un peu sur leur place dans l'effectif, mais ils n'ont pas l'assurance peut-être à plus long terme qu'ont souvent les top 3 de draft, etc. Parce que le front office aura toujours l'arrogance de ne pas reconnaître son erreur. Donc ces joueurs-là auront toujours les vocations, je trouve, à peut-être mieux réussir parce qu'ils sont dans la bonne situation, ils ne sont pas dans des trop mauvaises équipes, etc.
Ouais, ça pose aussi la question du profil aussi des joueurs, pour recentrer un peu sur les joueurs, de comment les équipes forment leur cœur de jeunesse, pour pas dire young core du coup.
Leur noyau de jeune.
C'est ça, exactement. Leur noyau de jeune, c'est plus propre, t'as raison, Tom. Parce que tu parlais aussi, Tom, tout à l'heure, de la question de l'opportunité des joueurs, que ce soit en NCAA ou en NBA pour la draft. Et il y a cette question, selon où t'en es dans ton équipe, selon où tu draftes, tu vas vouloir soit avoir quelqu'un avec un, par exemple un plafond très haut, mais t'as un peu plus de doute sur le plancher, soit il y a quelques joueurs qui ont la chance parce que ils ont fait 4 ans et qu'ils sont NBA ready. Il y en a qui arrivent à sortir leur épingle du jeu grâce à ça, même si c'est souvent les gens et les fans sont un peu plus frileux parce qu'ils préfèrent le joueur avec le plafond le plus haut possible pour pouvoir fantasmer sur ce qui va arriver. Mais peut-être que des fois, quand t'es dans un sentiment d'urgence, comme Milwaukee que t'évoquais tout à l'heure, tu préfères avoir un gars où tu sais que tu vas le mettre sur le terrain 10 minutes avec la seconde unité et il va t'apporter, il est solide sur ses rotations défensives, il va apporter, tu sais exactement ce qu'il va apporter, par exemple.
Carrément. Donc, c'est ça. Après aussi, il y a juste quelque chose que t'as juste pas mentionné dans ton triptyque, c'est où tu te situes en fait dans l'ordre des jeunes prospects de l'équipe. Puisque ça aussi, ça peut influencer la façon dont tu es traité dans la franchise et qu'est-ce qu'on va attendre de toi, notamment sur le côté qualité versus quantité. Est-ce que la franchise va plus essayer de trouver un joueur d'un talent exceptionnel et générationnel, quitte à en sacrifier d'autres qui sont juste un peu moins bons, ou est-ce que la franchise va se dire, plutôt qu'essayer de développer un mec au max, on va essayer de développer plutôt bien plusieurs mecs.
Ah ben ça, c'est le piège habituel, et comme tu disais, avec ce fantasme du titre qui est toujours en ligne de mire, donc il y a forcément envie d'avoir ce joueur générationnel. Et en même temps, quand tu commences à voir, ça fait 3-4 ans, je vais reprendre l'exemple des Bulls, que tu as un pic dans le top 10 et que tu récupères
un gars
qui est plutôt, pas forcément la frustration, mais je trouve que ça illustre plutôt pas mal la problématique qui se passe, la gymnastique mentale que ça demande, où tu te dis, on a plusieurs joueurs. Donc pour les Bulls, t'as Lauri Markkanen, t'as Wendell Carter, maintenant t'as Coby White, qui sont des joueurs où tu sens que ça peut devenir des bons joueurs NBA, ce seront des bons joueurs NBA très probablement. Et en même temps, tu n'as pas ton talent générationnel qui pourrait t'emmener au titre, qui est donc le but ultime que tout le monde veut atteindre, etc., etc. Et donc, se pose la question de est-ce que tu « all-in » entre guillemets, tu fais tout pour qu'un de tes joueurs devienne potentiellement ce gars-là, ou est-ce que tu vas essayer de développer un peu tout le monde, auquel cas, est-ce qu'il faut viser une free agency, est-ce que tu vas jouer sur la valeur de tes joueurs pour ensuite peut-être les échanger pour aller chercher ce joueur générationnel. Il y a toute une problématique sur quand tu te retrouves dans ces pics-là que tu disais de confort un peu, en fin de loterie. Le problème, c'est que tu ne l'auras pas, ton talent générationnel, juste comme ça. Et donc, on revient au fait de tout construire autour de la draft. Est-ce que c'est vraiment possible? C'est plus compliqué que ça.
Moi, je pense qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme. Puisqu'on parle français, on va sortir les grands mots, messieurs. Il y a vraiment eu un changement de paradigme parce que la NBA, on l'a dit, c'est accéléré maintenant. On voit bien que... Et ça, il y a plein d'éléments qui le montrent. Peut-être la frénésie des free agency, les stars qui bougent plus souvent, la longueur des contrats. Fini les contrats de 7 ans comme on avait encore il y a quelques dizaines d'années. Ouais. C'est fini tout ça. Ce qui fait donc qu'on reprend un peu la chronologie qu'on a repris là. Si on attend que le jeune joueur se développe dans second contrat, on est sur quoi? On est sur 5-6 ans. C'est trop long. 5-6 ans, la NBA a totalement bougé. Ce qui fait que pour moi, on est arrivé à un moment où ton cœur de jeune joueur, le moment où tu te poses cette question, que tu as avancé, Adrien, c'est au moment où tu dois payer le premier élément fort. C'est à ce moment-là que tu dois te poser la question. Tu dois dire, est-ce qu'avec ces mecs-là, je peux aller viser une finale de conf ou quelque chose comme ça? Parce qu'après, tu sais que les riches s'enrichissent, tu sais que tu peux aller chercher, prenons l'exemple des Warriors, tu peux aller chercher un Iguodala, un petit truc comme ça, une petite pièce, tu peux aller faire ça. Mais c'est la base, c'est tes fondations, est-ce qu'elles sont bonnes? Et là où je pense qu'il y a un changement de paradigme, c'est que maintenant, tu n'es plus obligé de le détruire forcément, tu peux aussi te servir de ce groupe-là comme un appel d'offres pour l'arrivée d'une superstar. Tu te dis, si j'ai tous les mecs autour, je peux dire à une superstar, viens, les joueurs sont pas chers, on peut peut-être en trader aussi, on sait que ça arrive. Mmh. Et en l'occurrence, tu auras ton équipe avec peut-être plus de potentiel que ton équipe d'avant.
Maintenant, pour moi, la question... Exemple Nets, quoi.
Nets, bien sûr, les Nets viennent à l'esprit. Les Celtics, c'est un peu avec ce qui a pu se passer avec Kyrie. C'est ça, pour moi, le changement de paradigme. Ce qui fait que la draft a un problème philosophique, c'est qu'elle est... Elle est pensée trop sur le long terme, en fait. Ça, le temps de la draft est trop long par rapport au changement de la NBA.
Surtout que les profils que tu vas peut-être drafter, peut-être dans 5 ans, ne sont plus les profils dont tu auras peut-être besoin pour dominer la ligue en fonction de leur évolution, tu vois. Ça, c'est quelque chose, le jeu évolue tellement vite maintenant. Bon, il y a des choses qui vont rester, par exemple, l'ailier dominant, si tu peux le trouver un peu partout. Mais tu vois, quand on fait le parallèle avec des choses qui arrivent... actuellement, si tu vois, on peut prendre deux exemples, enfin dans deux catégories différentes. On va prendre un exemple, par exemple, pour les types de joueurs, où tu as, par exemple, les trois fantastiques dans le type de joueur que tu veux aujourd'hui dans l'ère moderne, avec, par exemple, tu as Luka Doncic, tu as Zion Williamson et tu as aussi Jason Tatum, où tu as l'ailier, playmaker, bon défenseur, capable de faire du scoring offensif. Tu as l'extérieur organisateur, touche à tout, qui peut te rendre ton équipe, qui fait de ton équipe une attaque all-time. Et tu as le finisseur ultime qui est instoppable à l'intérieur. Ça, c'est vraiment trois types de joueurs. Et après, en termes de stratégie, on peut prendre. Bon, enfin, je suis désolé pour les fans des Hawks hein, qui nous écoutent. Bah, tu vois, par exemple, l'exemple les Hawks ont fait plutôt un adage sur le volume du nombre de jeunes qu'ils ont, où Dallas a parié sur, par exemple, le talent fort en allant récupérer après Porzingis, où là, ils ont deux gros joueurs estampillés, stars avec un potentiel peut-être superstar, hein, limite.
Pour Doncic, on peut dire que c'est bon.
Ouais, pour Doncic, une superstar. Ouais. Bon, Kristaps Porzingis, il a le type de jeu d'une superstar ou sinon d'une très forte star bis, quoi, quand même, globalement. Parce que Porzingis, c'était un franchise player à l'Est il y a quelques temps. Et même dans ce profil de jeu, ils complètent parfaitement le jeu de la plus grosse star. Où là, ils ont deux joueurs avec pas mal de role-players autour. Ben, Atlanta, eux, ils ont une stratégie où, OK, ils ont Trae Young qui semble se détacher en fait, du noyau de jeunes qui est un petit peu plus bas. Mais après, tu as plein de petites cartouches, entre guillemets, avec t'as du Werther, tu as du Reddish, tu as du Collins, tu as des pics de draft qui vont arriver. Où là, où ils sont plus sur du volume, et essayer de faire grossir ce volume-là pour donner... Mais ils n'ont pas le côté peut-être star power qu'il y a avec le duo Doncic Porzingis, où si tu rajoutes juste un troisième mec, tu peux aller très haut.
Ouais, puis la question des profils que tu disais, un autre exemple qui illustrait bien ça, tu draftes un profil en te disant il va progresser, il va exploser dans 4-5 ans, comme tu disais Ben, et la NBA change totalement de paradigme, de style de jeu dominant, c'est un Jalil Okafor, je sais qu'il revient souvent malheureusement pour lui, mais qui était voilà, mais qui est exactement lui, il est vraiment l'illustration parfaite parce qu'il est vraiment dans ce timing, le pire timing possible pour lui malheureusement, où on est passé de il y avait un fantasme sur l'intérieur, donc dominant offensivement, et d'un coup ce profil était limite persona non grata dans la NBA. Et du coup, le gars disparaît, alors qu'au moment de sa draft, il y a aucun scandale à l'arrivée de Jalil Okafor à un pic aussi haut, quoi.
Moi, j'ai un exemple, je pense, encore entre guillemets, encore plus contemporain, même si on adore notre ami Jalil. C'est l'exemple. Vous vous souvenez de ce moment où Porzingis arrive en NBA, Miles Turner arrive en NBA, et on a cette espèce de mouvance à se dire, ah, ça c'est le futur. Les grands qui shootent extérieur, ils vont dominer la NBA dans quelques années. On en est où là, 4-5 ans après? Ils dominent rien du tout. Hein. C'est toujours les ailiers. La ligue est toujours tournée vers les ailiers. Exactement. Ce qui fait qu'il y a eu cette inflation et il y a eu cette espèce de course à ta nouvelle licorne qui, en réalité, les licornes, elles ont gagné zéro titre. Alors, encore une fois, elles restent très jeunes à ce stade. Hein. La génération que j'ai cité, des Porzingis, etc. Ils restent très jeunes. J'entends bien. Mais pour l'instant, le pilier NBA, il n'a pas changé. C'est toujours les ailiers.
C'est donc là où la licorne est plus devenue la deuxième option que tu veux vraiment. Là où tu voulais avoir la licorne comme première option il y a peut-être 5 ans parce que tu disais c'est inimaginable, c'est indéfendable, là c'est plus le joueur de complément qui a le moins de faiblesse, quoi.
Totalement. Et ça, je pense qu'en réalité, tu n'as aucune idée de quand ça va changer. Enfin, si, pour moi, le seul indice que tu as par rapport à ça, je pense qu'il faut regarder les 2-3 meilleurs joueurs de moins de 25 ans et se dire... ils sont à quel poste. Et moi, quand je fais cet exercice mental-là, je me dis qu'on va quand même pas s'éloigner encore dans les 10 années qui viennent. Je suis pas sûr qu'on s'éloigne trop du poste 3 comme le poste marquant de la NBA. Parce que les talents les plus transcendants restent là. Si on prend même le cas d'Doncic, même si c'est un meneur officiellement, physiquement, il a des attributs qui le rapprochent beaucoup des autres joueurs au poste d'ailier. Donc, en fait, le paradigme change pas. Il faut pas tomber dans l'inflation, je trouve. Et ça, c'est un truc qu'on fait beaucoup. Moi, le premier, enfin, quand je voyais arriver ces joueurs-là, j'avais des étoiles dans les yeux. Sauf que tu ne peux pas construire ta philosophie sur ce qui va peut-être se passer. Parce que là où il y a un changement, je trouve, et pour revenir à ce que tu dis, Adrien, je trouve que les profils restent, quant à eux, à part, bien sûr, il y a eu la révolution shoot à 3 points intérieur, les profils restent quand même globalement stables. stable, ouais. Enfin, je veux dire, un ailier qui s'est pas shooté, un ailier qui s'est pas shooté, c'était pas génial il y a 15 ans, c'est encore moins génial maintenant. Enfin, je veux dire, il y a quand même une stabilité. On n'est pas du jour au lendemain passé d'un joueur qui avait aucun intérêt à un joueur qui est devenu majeur à NBA. Enfin, les entre guillemets two-way players, ils ont toujours été intéressants.
C'est sûr, mais toi, sur le poste ouais. de meneur, par exemple, quand même, il y a, tu mentionnais le kink d'Alan pour les pull-up à 3 points. C'est, chez les meneurs, par exemple, c'est devenu limite le critère numéro 1.
Obligatoire.
Ce qui a un peu évolué quand même sur, le profil qui est recherché à ce poste-là sur les années récentes, on va dire.
Là où avant, c'était beaucoup plus la distribution. La distribution voilà. de pouvoir mettre la table pour tout le monde, tu vois, un peu le cryptique, un peu le Optimus Dame John Wall, tu vois, un peu ce style de meneur de jeu hyper athlétique et très bon à la distribution, qui était capable de slasher et d'aller finir fort au cercle. Bah ça, c'est devenu un petit peu moins flashy, tu vois. Et tu vois, on peut prendre par exemple l'exemple d'un mec à la Ricky Rubio, tu vois. Ricky Rubio qui a totalement subi l'évolution de la NBA. Malheureusement pour lui, bon, lui, il se blesse à un moment où le jeu change, moi je trouve. Hein. Quand il se fait les croisés, il se blesse à un moment où le jeu change. Et au final, Ricky Rubio, ça c'est devenu limite un meneur, entre guillemets, de niveau plancher. Quoi. C'est-à-dire que le mec, il va faire fonctionner ton équipe. Par contre, arriver sur des hauts, j'allais dire settings, mais arriver sur des... Enfin, arriver sur des gros moments entre guillemets playoff, ça peut être rédhibitoire si tu es obligé d'avoir
Mais tu veux pas que ce soit Rubio ton meneur titulaire.
Voilà, tu veux pas que ce soit Rubio ton meneur titulaire par rapport à tout ce qui génère comme problème, tu vois.
Mais du coup, pour faire un peu la synthèse de tout ça et pour finir les quelques minutes qui nous restent dans ce podcast, on peut se poser la question de qui sont donc actuellement, si on regarde un peu le paysage actuel des noyaux de jeunes joueurs dans les équipes qui font fantasmer tout le monde. Alors évidemment, on va probablement mentionner une équipe du côté de la Nouvelle-Orléans, mais il y en a d'autres. Voilà, laquelle vous semble avoir le noyau le plus intéressant et sur quel profil, du coup, on peut se poser la question, quel est le profil qui nous semble le plus intéressant, celui qui a le plus de profondeur avec le plus de jeunes joueurs développables, ou est-ce que vraiment c'est quand même ceux qui ont les licornes, comme vous disiez, qui restent les plus intéressants?
Bah, comme tu l'as dit, il y a quand même la Nouvelle-Orléans qui se place comme le corps de joueurs le plus intéressant et de loin, je pense.
Parce qu'ils ont les deux. Ils ont la licorne et la profondeur.
Ils ont la licorne, ils ont la profondeur. Ils ont
et
même
les
des
pics
joueurs,
de draft qui vont arriver aussi.
Les pics de draft, ils ont les joueurs. Même, tu vois, un Ingram qui reste, même s'il a quand même commence à avoir des années dans la ligue, qui reste. C'est un joueur à qui on a l'impression qu'il a toujours 19 ans, on attribue toujours du potentiel. Enfin, ils ont un peu tout. Après, moi, je trouve que, et on a beaucoup parlé d'Alan alors qu'il n'est pas là, on va lui faire plaisir. Je trouve que sur le papier, le profil des Celtics, c'est extrêmement intéressant parce que, comme je l'ai dit, si on part du principe, et encore une fois, je mords, c'est le serpent qui se mord la queue parce que j'ai dit qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Mais le fait que le pion central peut-être de ta reconstruction, c'est l'ailier, c'est quand même extrêmement intéressant. Ensuite, quand on voit qu'il y a Jalen Brown autour, je trouve ça intéressant. Memphis, on est obligé de passer par eux.
Ouais.
Je me pose la question en fait par rapport à est-ce que tu vois, c'est toujours tu réfléchis sur le profil dominant, à quel point avoir un meneur tout excellent que soit Ja Morant, enfin ça pose la question, tu vois, et je pense qu'en l'occurrence c'est limite l'évolution de Jaren Jackson qui sera plus importante que celle de Ja Morant. Et à part ça, il y a je finirai par deux points, l'énigme Sixers, parce que je suis persuadé que justement ce cœur de jeunes joueurs va pas rester comme ça, parce que je pense qu'on arrive petit à petit à la fin du duo Embiid-Simmons comme il est construit, et les Hawks, où moi j'ai toujours un problème philosophique quant à Trayon, enfin, où je me dis qu'en fait je peux pas mettre, et on renvoie au DH20, Trayon, son match le plus important de sa carrière, c'est un All-Star Game, donc j'attends de voir.
Alors, quand ça sort de la bouche de la personne qui est plus fan du All-Star Game du site, ça veut tout dire. Mais après, moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis particulièrement d'accord avec toi, Ben. Le seul truc que moi, je garderais peut-être Dallas, puisqu'ils ont un top 5 MVP déjà.
excusez-moi, je les ai ratés dans mes notes en plus. Je m'excuse auprès des fans de Dallas. Parce qu'on sait un petit peu chafouin hein, parfois.
C'est ça. Donc, ils ont déjà un top 5 MVP avec le joueur, l'intérieur le plus complémentaire qui soit. Tu leur ajoutes un gros mec à l'aile. Pour moi, il domine la NBA, quoi, limite à la fin.
Ouais, pourquoi pas. Du coup, je vais poser une question un peu provocatrice. Quid des Nuggets? Parce que, bon, Jokic est plus tout jeune, mais il n'est pas non plus vieux. Et ensuite, Jamal Murray, des Michael Porter Jr., Monte Morris. Voilà, est-ce qu'on considère que c'est une équipe avec un cœur de jeunesse intéressant sur les années, on va dire, à court moyen terme quand même.
Je pense qu'on sera pas d'accord, Benny, moi. Mais vas-y, Ben, je te laisse commencer.
Non, en fait, parce que j'estime toujours, et c'est là le désaccord dont parle Tom, j'estime toujours que il faut un petit peu rentrer dans les clous. Moi, les Nuggets, alors, j'ai fait beaucoup de comparaisons dans cet épisode. Les Nuggets me font extrêmement penser à cet élève qui se croit brillant et qui sort complètement des clous. Mais il y arrive un moment où, quand tu passes un concours de la fonction publique, tu dois être dans les clous, en fait. Ça marche pas autrement. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour gagner un titre, il y a le cahier des charges actuel n'est pas rencontré par les Nuggets. Donc, même si Tom me dira que ça peut être une... Et là, je vais faire le cas classique, je vais détruire ses arguments, c'est vraiment petit n'importe. Tom pourrait me dire qu'ils offrent, entre guillemets, une palette de compétences. Et oui, on dit même plus ce qu'il sait. Vous avez vu avec Jokic, avec les Jamal Murray, avec l'énigme, entre guillemets, Michael Porter. Je reste persuadé qu'en fait, il te pose des problématiques en termes d'équipes qui sont trop difficiles à surmonter. Et comme tu l'as dit, Alain, pourquoi je t'ai appelé Adrien?
Oh, ça me vieillit d'un coup.
Ah ouais, là, je t'ai donné 10 ans. Comme tu l'as dit, Adrien, du coup, j'ai fait un mix entre Alain et Adrien. Comme tu l'as dit, Adrien, Jokic reste jeune, mais pour l'instant, de toutes les équipes dont on a cité, même Boston a eu des playoffs plus convaincants que les Nuggets. Je suis désolé, moi, les Nuggets en playoffs m'ont jamais trop convaincu. Et je suis désolé, il commence quand même à avoir quelques saisons dans la besace.
Bah on vous renvoie sur l'épisode sur les Nuggets qui date de il y a quelques semaines, mais pas tant que ça, où effectivement il y avait ces questions-là qui étaient posées, bien évidemment. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Tom, pardon.
Bah, moi, pour répondre à ta question, je pense que tout dépend en fait de la valeur que tu places en Michael Porter Jr. Puisque comme Ben l'a bien décrit, tu sembles avoir un plafond de verre si Nikola Jokic est ton meilleur joueur. Je l'entends parfaitement. Denver est une équipe jeune, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe, même quand tu vois le résultat dans l'Est. Mais en fait, ils ont quand même cette étiquette un peu d'équipe de saison régulière, dans le sens où si par exemple tu dois choisir des joueurs en playoff qui te font le plus peur, je sais pas si Jokic arrive dans le top 10, tu vois.
Donc il faut que Michael Porter Jr. devienne un Kodak, donc.
Si, Exactement, c'est-à-dire qu'il a eu des flèches. Mais tu vois, Michael Porter Jr., typiquement, c'est le joueur qui est à l'aile, tu vois, qui a montré pas mal de flashs offensifs sur son poste d'aile, pas mal de bonnes choses, notamment aussi au rebond et le fait qu'il puisse être sur le moins bon des deux ailiers, qui puisse être caché par exemple sur le moins bon des deux ailiers offensifs de l'autre équipe, et que tu peux mettre un autre joueur à ses côtés pour s'occuper de ces charges là puisque défensivement il a quelques lacunes aujourd'hui. Donc si tu vois il arrive à devenir décent entre guillemets défensivement et à avoir peut-être une trajectoire peut-être à la Jason Tatum offensivement, bah, typiquement je pense que les Nuggets ils passent dans une autre catégorie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Ben.
En fait, moi, le seul problème avec cette démonstration, c'est qu'en fait, alors j'extrapole peut-être un peu, mais la description que tu fais avec Michael Porter, elle le verrait plus fort, le voit plus fort que Jokic.
C'est ce que je te dis. Ouais, c'est ça, c'est
ouais
ça.
Donc en fait, moi, j'ai du mal avec ça parce que c'est comme dire, en gros, je ne sais pas, quelle équipe je peux prendre au hasard. Je ne sais pas, c'est prendre une équipe dominante et se dire, ah bah, s'il... un des jeunes éléments devient le plus fort sur le bon poste, on peut y arriver. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est retourner le problème. C'est comme dire, allez, je vais prendre un exemple fou. C'est comme dire du côté des Timberwolves, ah ben, si Jared Culver devient le meilleur joueur des Wolves, ah bah oui, ils vont y arriver. Sauf qu'en fait, c'est possible, mais c'est pas le problème, selon moi. C'est pas le problème, fondamentalement.
C'est la question de probabilité. La boucle est bouclée, ouais. Pratiquement, on revient sur la probabilité du plafond de chaque joueur. La question qui se pose pour tous les front office, même si tu es obligé de parier à un moment dessus, hein, de toute façon,
ouais,
aussi, hein, c'est quelque chose qu'on peut se dire, c'est qu'au bout d'un moment, les joueurs ils sont là, les jeunes joueurs, tu te mets dans les meilleures conditions, ou tu les mets dans les meilleures conditions pour progresser, et puis tu fais un bilan juste avant de payer, comme on disait Ben. Je pense que ça récapitule plutôt pas mal la problématique du développement des jeunes en NBA.
Je pense qu'au bout d'un moment, tu peux plus t'acheter du temps, en fait. Puisque l'idée de partir sur une construction avec des jeunes, c'est que tu achètes du temps en tant que front office. Parce que les fans, c'est qu'ils vont devoir être patients. Enfin, quand on reprend l'exemple des Bulls, leur fameuse phrase « rebuild on the fly », ben en fait, tu t'achètes du temps.
Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute, vas-y, je t'en prie, Ben.
Juste le mot de la fin, je pense que la différence maintenant, c'est que la réévaluation, elle doit être constante. Tu peux pas dire, on est sur un projet de 2-3 ans, on verra ce qui se passe dans 3 ans. vu le contexte NBA, tu dois, à la fin de chaque année, tu dois faire les comptes. Voilà, tu dois passer devant le comptable. On en est où à ce niveau-là avec ce joueur, ce joueur, ce joueur ? Et tu dois agir plus vite, en fait. Je pense que c'est la différence fondamentale.
Ouais, c'est ça, faut rester alerte. Et du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour, là. On a parlé de pas mal de choses. Bon, c'est un sujet qui amènera, je pense, beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à réagir avec nous sur les réseaux sociaux. Et je crois que pour la petite conclusion, Ben, t'avais quelque chose à dire ?
Oui, alors certains l'auront vu, les pubs ont fait leur arrivée. Alors pas trop de retour par rapport aux pubs depuis le début, donc à voir si ça vous a pas trop gêné, etc. N'hésitez pas à nous faire des retours pour que nous, de notre côté, on s'adapte. Enfin, s'adapter, c'est un grand mot, mais enfin voilà, qu'on sache un peu comment vous l'avez vécu, etc. Enfin bref, c'est pas un traumatisme dans vos vies, j'espère, mais voilà comment ce que vous en avez pensé, etc. N'hésitez pas à nous contacter, notamment sur Twitter par rapport à ça.
Exactement, et n'hésitez pas à nous retrouver donc sur toutes les plateformes de streaming comme d'habitude, à nous donner en plus des commentaires, des petites étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir évidemment. On est là sur Twitter et puis on se donne très très vite rendez-vous pour un prochain épisode de Duck Hebdo en vous souhaitant une excellente semaine. Merci beaucoup les gars.
De rien, c'était un plaisir, salut.
Ciao.